1,8% contre 1,5% jusqu'à présent. En conséquence, la revalorisation des pensions de retraite prévue le 1er avril sera de 2,1%.
Cette semaine, dans le Pont des Artistes, Isabelle Dornin reçoit Jean-Louis Aubert.
Je veux chanter et te paradiner. Demain sera parfait.
Oh là, oh là là.
On a connu pire. Ah, ah, oh. Ah, ah, oh.
Et Charles Pazzi.
It's better with butter.
Rendez-vous pour l'enregistrement de l'émission. Demain à partir de 18h dans le grand hall de la maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter. France Inter.
La différence.
À 15h04 sur France Inter, je vous laisse en compagnie de Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Bonjour Monsieur Mermet. Je suis une parent d'élèves en colère. Nous venons d'apprendre la fermeture de classe dans notre commune. Monsieur Châtel, ce matin, sur une antenne concurrente, prétendait que les suppressions de postes n'étaient pas le sujet du jour. Or, monsieur le ministre, au quotidien, c'est un sujet primordial, vital pour notre jeunesse. Alors, écoutez-nous, petits citoyens que nous sommes. Venez voir, ministre, qui nous sommes et ce dont nous avons besoin. Nous sommes en colère contre votre décision, contre votre mépris. Monsieur Mermet, merci et continuons de nous mêler de notre vie politique. Voilà, c'était Marie-Axelle, qui habite Arpres, dans le Nord, une petite commune qui est en colère.
Oui, salut Daniel, salut les AMG, salut tout le monde. Voilà, c'est Besançon, c'est un peu tôt, mais nous sommes venus réveiller l'inspection académique. Voilà, nous sommes le collectif des parents en colère contre le démantèlement de l'école publique. Nous sommes des enseignants du primaire et du secondaire. Et nous venons manifester parce que, évidemment, il y a des suppressions de postes massives dans notre académie, comme dans toutes les académies. Donc, sur Besançon, ça bouge pas mal. Il y a eu plein d'opérations, école morte, collège mort, lycée mort. Et puis, il y a d'autres choses prévues, voilà. Donc, on reste mobilisés. Les parents sont de plus en plus de la partie et ça, c'est un bon signe. Voilà, maintenant, évidemment... On lutte contre beaucoup plus gros que nous, hein, c'est l'OCDE bien sûr, et tous ces merveilleux conseils pour la gestion des services publics d'éducation. Force, à bientôt.
Oui, bonjour, c'est Roberto, je suis à Bobigny, au niveau du pont de Bondy. Il y a un camp de Roms, ils sont 200 familles, et depuis 6h30 ce matin, la police évacue tout cela. Bien sûr, ils invoquent des problèmes de sécurité, mais ils vont laisser errer donc dans Bobigny, dans Bondy et les communes avoisinantes 270 familles avec femmes, enfants, gosses, etc., des vieillards. Et tout ça se déroule actuellement sous mes yeux. Voilà.
Oui, salut Daniel, c'est Guillaume. Merci pour ton émission. Je voulais réagir à l'excellente interview de Thierry Salomon, président de l'association Négawatt, invité de l'émission là-bas si j'y suis récemment. Alors voilà, moi j'adhère totalement à la vision de la problématique énergétique que M. Salomon nous a présentée et qui consiste à placer la sobriété et la demande au centre des préoccupations. Mais alors ce faisant, en plaçant le besoin et la demande au centre, on en arrive inévitablement à poser le bien fondé de la société de consommation telle que nous la vivons depuis quelques décennies déjà. Salut.
Chers AMG. Par ce message, je souhaitais vous prévenir du décès de mon père, Alice, fidèle auditeur de là-bas si j'y suis. Donc maintenant, là-bas, il y est. Mon père est né en Algérie en 1950, a épousé en 1977 une Française, ma mère, et a fait le choix d'être enterré en France, qu'il a depuis toujours considéré comme son pays. Dans cette épreuve, nous aurions aimé être auprès des nôtres, ses frères et sœurs, ses neveux et ses nièces, tous ressortissants algériens. Cela n'a évidemment pas été possible, car même dans la douleur, les Algériens restent potentiellement, et plus que jamais, des clandestins en puissance. C'est à croire que seule la Méditerranée nous sépare, mais c'est bel et bien aujourd'hui un océan de racisme qui nous éloigne. En ce 28 mars, lendemain des cantonales, voyant la poussée du FN, joyeusement encouragée par le chef de l'État et ses ministres, j'aimerais formuler un vœu. Mon père, farouche républicain, a fait le choix de reposer en France, pays des droits de l'homme. Je compte sur vous pour qu'il ne repose pas demain, dans un pays niant son histoire et son passé, laissant de nombreuses familles soumises aux stupides, strictes et finalement inhumaines règles des quotas d'immigration. Merci pour lui.
Après le résultat des dernières élections et le taux d'abstention record, eh bien, il y a une question qui serait importante de se poser. La démocratie fonctionne-t-elle correctement et les élections en sont-elles le moyen le plus sûr pour la défendre? Voilà, bah c'est une vraie question. Depuis la Révolution, on s'accroche à cette idée. Et pourtant, on a totalement oublié que la démocratie athénienne fonctionnait sur le tirage au sort. Oui, parce qu'à l'époque, ils avaient conscience que le pouvoir pervertit les humains et ils avaient donc mis en place un système de tirage au sort des citoyens pour voter toutes les décisions. Voilà, ça paraît un petit peu saugrenu de prime abord, mais en y réfléchissant, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. Plus de professionnalisation des hommes politiques, par exemple, plus d'affiliation aveugle aux partis, plus de moyens d'influence par les lobbies, on fait des mandats courts, une représentativité de la population, ben oui, autant d'hommes que de femmes, de riches que de pauvres, de manuels, d'intellectuels, de nord, de jeunes, de vieux, etc. Ben ouais, quand on tire au sort, on a une cartographie de la population française. Quoi, bref, les citoyens comme réels contre-pouvoirs. C'était Laurent du Plessis, à bientôt.
Selon l'autorité de sûreté nucléaire, pratiquement tout l'hémisphère nord a été contaminé par la catastrophe de Fukushima. Tout l'hémisphère nord, avec pratiquement seulement 3 réacteurs nucléaires. Je vous rappelle qu'il y a 440 réacteurs nucléaires dans le monde et principalement situés dans l'hémisphère nord. Donc la seule chose à faire, c'est de partir dans l'hémisphère sud.
Voilà, merci pour tous ces messages, chers AMG. Aujourd'hui, suite de la rencontre avec Noam Chomsky, qui était à Bruxelles les 16 et 17 mars pour deux soirées de conférences et de débats avec un public très nombreux, jeunes universités et très fervent ensuite le lendemain soir au théâtre, au Grand Théâtre de Bruxelles. Et voilà, il nous a accordé un entretien pour vous. Hier, on a abordé un certain nombre de sujets, évidemment, à commencer par la révolution arabe. D'ailleurs, c'est assez marrant comment il a enjambé la Tunisie. La Tunisie nous intéresse parce que, d'abord, c'est de là que c'est parti. Et puis, la Tunisie, c'est un peu notre espace, notre sphère, en tous les cas, notre imaginaire de Français. Alors que pour les Anglais et les Américains, c'est évidemment l'Égypte. Qui leur vient tout de suite à l'esprit. Donc, Chomsky n'échappe pas à ça. Il a tout de suite évoqué l'Égypte et les conséquences de la révolution en Égypte dans toute la région. Aujourd'hui, on va revenir aux États-Unis. Il va nous parler de ce qui se passe au Wisconsin, un état du nord des États-Unis. Là, il y a des choses étonnantes et qui font référence à ce qui se passe en Égypte. Et puis, on parlera de ses voyages, puisque Chomsky s'est mis à voyager, à revoyager ces années récentes, ces 2-3 dernières années. Donc, il nous parlera un peu de la Turquie, il nous parlera un peu de la Colombie. Et puis, on parlera aussi des reopen. Ça, c'est un sacré sujet. Depuis des années, là-bas, j'y suis harcelé par ceux qui ont leur version sur le 11 septembre et qui veulent rouvrir le dossier, etc. Donc voilà, on aura la réponse que Chomsky a faite sur ce moment et l'analyse qu'il en fait. Voilà l'heure que nous allons passer ensemble. En route. C'est Daniel Mermet, et là-bas, j'y suis avec Guy Van Til et Noam Chomsky à Bruxelles.
Flight number 2, arriving from New York.
J'ai oublié tout à l'heure au sujet de la Libye, on parlait de la Libye, et on a des médias en France qui n'ont pas manqué de pointer le soutien de l'ALBA, de Chavez, de Correa, à Kadhafi. Quelle est votre analyse là-dessus?
First of all, I'd look at the facts if I were you.
Moi, si j'étais vous, je regarderais plutôt les faits.
Correa, I think, has said essentially nothing.
Je pense que Cohen n'a peu de choses près rien dit. Morales est aussi resté très calme.
Chavez had one brief statement that I know of, which was kind of ambiguous. Actually, I think it was a Twitter statement.
Et Chavez a eu une phrase qui a été assez ambiguë, qui, je pense, à l'origine même était une phrase Twitter.
As for that famous Chavez incident, it's kind of interesting to see what actually happened.
Et c'est intéressant de voir sur ce soi-disant incident Chavez qui a vraiment eu lieu.
Je refuse de condamner Kadhafi, un ami de longue date.
Yeah,
la phrase c'est ça. Je refuse de condamner Kadhafi, un ami de longue date.
Yeah, but the same is true of the Western powers.
La même chose est vraie pour les puissances occidentales.
The media are kind enough to keep it quiet. But let me give you one example from right at this minute. You know, right now, in The Hague, Charles Taylor, the trial of Charles Taylor just finished a couple of days ago. The prosecutors wanted to indict Gaddafi, who was involved up to his neck. He was funding them, he was helping implement the atrocities and so on. The U.S. and Britain intervened to prevent Gaddafi from being indicted. That's right now. That's a lot more significant than Chavez saying, yeah, he's an old friend.
Mais prenons un exemple qui a lieu en ce moment même, il y a quelques jours de ça, à La Haye, au tribunal pénal international, avec le procès de Charles Taylor. Le procureur a demandé à ce qu'il y ait des poursuites à l'encontre de Muammar Kadhafi pour son soutien à Charles Taylor. Muammar Kadhafi qui est en ce moment même mouillé jusqu'au cou. Or, la Grande-Bretagne est intervenue pour que Muammar Kadhafi ne soit pas cité dans ce procès.
Let me just add a word about the incident at the United Nations with Chavez.
Laissez-moi aussi préciser un mot sur l'incident aux Nations Unies avec Chavez.
When he came to the United Nations, first of all, he made a speech at the General Assembly, which was quite significant and reasonable. It was never touched.
Déjà, il est venu faire un discours devant les Nations Unies avec un discours qui était assez raisonnable, mais qui n'a bien entendu pas été repris.
What received a lot of publicity was a statement of his in a press conference. That he was sorry that he had not come to the United States in time to visit someone who he very much respected, and then they put my name in. So that was very exciting.
Mais par contre, ce qui a été beaucoup plus repris, c'est au cours d'une conférence de presse où il disait qu'il n'avait malheureusement pas eu le temps de venir voir aux États-Unis, avoir le temps de venir voir une personne qu'il respectait beaucoup. Et là, on a rajouté mon nom à la suite, et c'est ça qui a fait beaucoup de bruit.
So, for example, I got a call from the New York Times right away, which never happens, asking me if I could say something which would allow them to ridicule this comment.
Et donc, du coup, j'ai eu un coup de fil du New York Times, qui, je rassurez-vous, n'arrive jamais, qui me demandait si j'avais une petite phrase, un petit commentaire qui pourrait ridiculiser les propos tenus par Chavez.
There was one slight problem. He didn't mention my name.
Mais il y a un petit problème, c'est que Chavez n'a jamais mentionné mon nom.
He mentioned John Kenneth Galbraith.
Il a nommé celui de John Kenneth Galbraith.
He said he was sorry he had not been able to meet John Kenneth Galbraith before he died.
Et ce qu'il disait, c'est qu'il regrettait de ne pas avoir rencontré John Kenneth Galbraith avant sa mort.
Now you could imagine, hard to imagine, but you could imagine that the American reporters somehow didn't understand the Spanish. You can't imagine that the reporter from Le Monde didn't understand it.
Et voilà, c'est difficile à croire que les journalistes du New York Times ou de la presse américaine ne parlent pas un mot d'espagnol. C'est difficile à croire que le journaliste du Monde ne parle pas un mot d'espagnol.
But they gave the same lie. The New York Times was informed immediately that they had mistranslated it. And 17 days later, there was a little item somewhere, you know, which nobody noticed, and a correction.
Et pourtant, ses propos ont été publiés tels quels, et ce n'est que 17 jours après que dans une petite note en bas de page, il y a eu l'erratum fait par le New York Times.
But it wouldn't do to have Chavez say that he wanted to meet a liberal icon. So therefore, they changed it to somebody who could be show how radical and extreme he is.
Parce que ça ne leur servait pas que de montrer que Chavez veuille rencontrer une icône libérale. Il fallait que ça soit quelqu'un de bien plus radical. C'est ça qui leur était utile.
So one can draw whatever conclusion one likes about Chavez, but you have to be careful. Taking a look at the way it's portrayed in the West.
Alors bien sûr qu'on peut prendre les positions qu'on veut vis-à-vis de Chavez, mais il faut faire très attention à la manière dont il est représenté en Occident.
Voilà, sur le positionnement des pays Venezuela, Équateur, Bolivie, Cuba, etc. vis-à-vis de la Libye. On en reparlera dans les jours prochains avec l'équipe du Monde Diplomatique qui fait des analyses un peu différentes de celle de Noam Chomsky. Pour la petite histoire, il y a eu un incident il y a quelques années, en 2006, où Hugo Chavez, à la même tribune des États-Unis, avait provoqué la consternation en exprimant un de ses grands regrets, n'avoir jamais rencontré le linguiste avant sa mort. Et il y a eu un coup de fil du New York Times qui a dit que Chomsky était encore tout à fait vivant. Et donc, bien sûr, il y a eu des excuses de Chavez. Et ce qui fait que Chomsky, comme un autre célèbre américain, Mark Twain, a vu que sa mort était annoncée avant, alors qu'il était encore vivant. À peine cette annonce avait été faite par Chavez que des quantités de messages arrivaient, de courriels arrivaient. On a dit qu'il y avait eu 10 000 courriels qui étaient arrivés pour dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» avec notre Chomsky. Il y a eu d'autres moments comme ça, notamment le même Chavez, qui est toujours très exubérant, avait montré à la même tribune des États-Unis l'un des livres de Chomsky, « Dominer le monde ou sauver la planète ». Et les images ont lancé ce bouquin, en ont fait un best-seller. Enfin, des petites histoires comme ça, mais qui dédramatise un peu parfois les choses, ce qui n'est pas forcément inutile, et qui nous rappelle que ces personnages politiques, ces hommes politiques peuvent parfois ne pas tout savoir et brailler très fort et montrer leur ignorance, sinon leur insuffisance, et pas toujours leur rouerie, quoique. Voilà, on est ensemble avec Chomsky jusqu'à 16h dans la basse vie.
Depuis deux semaines, il manifeste à l'intérieur du Parlement du Wisconsin,
Radio-Canada,
et à l'extérieur. C'est la bataille du Wisconsin.
23 mars 2011.
Une guerre à finir qui oppose les syndicats de la fonction publique au gouverneur républicain Scott Walker, nouveau chouchou du Tea Party.
He's really trying to crush the unions.
Écraser, casser les syndicats, dit ce manifestant. Voilà l'objectif du nouveau gouverneur qui veut faire adopter une loi qui supprimerait carrément leur droit de négocier des conventions collectives du jamais vu. C'est notre droit, la loi nous le permet, dit le gouverneur. La nouvelle droite représentée par les Scott Walker de ce monde estime qu'il faut abolir ces conventions collectives bien trop généreuses. Une guerre d'idéologie sous le couvert d'une crise budgétaire. Très troublant tout ça, dit cette enseignante. Nous savons qu'il y a des sacrifices à faire, mais Scott Walker va bien trop loin. Surtout que le gouverneur à peine élu a fait baisser les impôts sur les entreprises avant de s'attaquer aux syndicats pour combler un déficit de 140 millions de dollars. Même le président des États-Unis s'en est mêlé lors d'une rencontre avec les gouverneurs à Washington. Ce n'est pas dans l'intérêt de qui que ce soit de mépriser les employés de la fonction publique, dit Barack Obama. Enseignants, infirmiers, déblayeurs, ils sont tous dans la ligne de mire du gouverneur du Wisconsin. Mais le gouverneur ne cède pas un millimètre. Nous sommes dans la dèche, dit-il. S'il le faut, je suis prêt à mettre les fonctionnaires à la porte.
Voilà, image étonnante, hein, si vous regardez, vous trouvez ça très facilement dans les archives, et ça continue dans cet état du Wisconsin, comme disent nos confrères québécois. Eh ben, ça chauffe, vous avez compris. Le gouverneur qui a été élu au mois de novembre, qui s'appelle Scott Walker, a fait passer une loi, un petit peu en catimini, qui réduit le rôle des syndicats, notamment le droit les droits des employés publics, de la fonction publique, à négocier leurs conventions collectives. Il faut rappeler qu'aux États-Unis, un peu comme chez nous, le syndicalisme est en déclin. Il n'y a que 12,4% de salariés qui sont syndiqués, essentiellement dans le secteur public, mais c'est vrai que c'est un enjeu symbolique et idéologique, politique, tout ce que vous voudrez, parce que, en fait, le déficit prétendu de 140 millions de dollars, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, par rapport au budget de l'État du Wisconsin, c'est pas considérable du tout, mais c'est un affrontement idéologique, ce qui est et politique, ce qui a fait des manifestations très impressionnantes, jusqu'à 50 000 personnes par jour se sont retrouvées à l'intérieur du palais du gouverneur et du gouvernement, et ça s'est étendu d'ailleurs à d'autres États des États-Unis, et certains voient déjà là l'avènement d'une nouvelle gauche aux États-Unis, à gauche du Parti démocrate traditionnel, en opposition avec le fameux Tea Party qui est apparu avec les élections à mi-mandat de mid-term, et qui sont des gens d'une droite très radicale, très caricaturale, mais qui représentent quand même un courant assez fort dans l'opinion américaine. Le point de vue de Noam Chomsky.
Uprisings in Wisconsin are very significant.
C'est quelque chose de très important, ces mobilisations au Wisconsin.
Other states too, not just Wisconsin, and there was a substantial solidarity of working people and others for the uprisings, and they're significant ones. I mean, there were tens of thousands of people in the streets, occupying the state capitol day after day, struggling to defend elementary rights which had been won.
C'est un mouvement très important qui ne se limite pas au Wisconsin, qui touche aussi plusieurs États, mais surtout qui touche des dizaines de milliers de travailleurs américains qui se sentent solidaires et qui soutiennent ce mouvement qui a occupé pendant plusieurs semaines le Congrès du Wisconsin, qui a fait des manifestations monstres pour simplement pouvoir conserver des droits qui ont été acquis de haute lutte.
It's interesting to compare it with Egypt, where they're fighting to obtain elementary rights which have been withheld from by the dictatorship. In Wisconsin and Ohio and elsewhere, it's an effort to maintain, to defend rights that had been won.
Alors qu'en Égypte, ces mobilisations ont lieu pour atteindre, acquérir des droits nouveaux, là c'est pour les conserver, ces droits.
There's an interaction. In fact, the Egyptian labor movement sent message of solidarity to Wisconsin workers.
Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir, c'est qu'il y a eu des signes de soutien envoyés depuis l'Égypte jusqu'aux manifestants du Wisconsin.
And it's interesting and a little surprising that the demonstrators in Wisconsin have overwhelming popular support, which is significant, that might lead to something important.
Et c'est intéressant de voir que les travailleurs grévistes mobilisés dans le Wisconsin bénéficient d'un soutien populaire très important, ce qui peut présager de suites à venir dans un futur proche.
Qui pourrait s'opposer à ce mouvement très conservateur, des Tea Party, qui pourrait s'opposer à ça? C'est une réplique au mouvement des Tea Party?
Well, the Tea Party is quite different. For one thing, it's a small minority movement. The Tea Party movement itself is maybe 15% of the population. It's relatively affluent, white. It's a petty bourgeois movement.
Ben, le mouvement anti-parti est un mouvement assez minoritaire qui ne concerne qu'à peu près 15% de la population américaine, principalement blanche.
It draws from a nativist tradition, a strong nativist tradition of opposition to outsiders, to immigrants, rather similar to the base of support for the Nazis, actually, if you look at it.
Le mouvement anti-parti se vit surtout comme les authentiques, les Américains de souche, par opposition à ceux qui viennent de l'étranger. Et dans un certain sens, c'est assez proche aussi de la base qui avait été à l'origine du parti nazi dans l'Allemagne. Et ce petit mouvement est très largement et très activement soutenu par les puissances d'argent, par les grandes industries qui les financent massivement.
Nevertheless, it is important because of its outreach. It reaches a lot of other people.
Mais ce qui est très intéressant néanmoins, c'est de voir que ce mouvement, cette base, touche beaucoup de gens
who are not like the Tea Party activists, for good reasons.
Qui ne se résument pas à l'identité des militants antipartistes, et ce pour des bonnes raisons.
And it's important to look at the reasons. I mean, for the past 30 years, for the majority of the population, circumstances have been pretty bad, you know, not like Central Africa, but bad for a rich country.
Et ce qui est vrai qu'il faut voir, les raisons qui sont à l'origine de ça, c'est qu'au cours des 30 dernières années, la vie quotidienne, les conditions de vie et les perspectives pour cette Amérique moyenne ont été mauvaises. Pas aussi mauvaises qu'en Afrique du Nord, mais mauvaises pour un pays riche.
Wage incomes have pretty much stagnated.
Stagnation des salaires.
Working hours have gone very high, much higher than Europe.
Augmentation du temps de travail beaucoup plus que l'Europe.
There never were very good benefits, and the ones that were have declined.
Jamais eu beaucoup d'avantages sociaux et les peu qu'on avait ont réduit.
People have been getting by through debt, through bubbles, you know, asset inflation like housing prices. But that's very fragile and it's collapsed.
Et les gens ont été pris entre l'endettement et puis les bulles spéculatives comme celle de l'immobilier.
At the same time, there's plenty of wealth and it's very highly concentrated.
Alors qu'au même temps, il y a énormément de richesses mais qui est concentrée, très concentrée entre quelques mains.
I mean, it's well known that inequality in the United States is reached the highest level in history.
Tout le monde sait, maintenant c'est communément admis, que les inégalités se sont accrues aux États-Unis.
But what is less well known is that that inequality primarily traces to a fraction of 1% of the population, which is phenomenally wealthy. That's managers, managers of hedge funds, directors of corporations, and so on. For them, wealth has just shot to the stratosphere.
Mais ce qui est moins admis, c'est que la plus grande majorité des richesses se concentre dans les mains d'1% de la population, dont la richesse a explosé à des niveaux stratosphériques, à savoir les responsables de hedge funds, les directeurs de grandes multinationales, qui eux profitent.
And that causes plenty of anger and frustration.
Et c'est ça qui provoque plein de colère et de frustration.
And there's something else. There's a real fear in a large part of the population that they're losing their country.
Et puis il y a une autre chose aussi, c'est la peur pour une partie de la population qu'on est en train de perdre son pays.
Whites are becoming a minority, not yet, but they will soon.
Les blancs sont appelés à devenir une minorité dans leur propre pays.
That leads to and of course anti-immigrant hysteria is stimulated by propaganda, but it also has a basis.
Bien sûr que l'hystérie anti-immigrée est stimulée par la propagande, mais elle a aussi une base réelle.
A lot of this has been created by the international trade agreements.
Et tout ça est en partie le résultat des accords de commerce internationaux.
One of their properties is that they set working people in competition with one another all over the whole world.
Et un des résultats de ces accords de commerce internationaux, c'est qu'ils ont mis chacun des travailleurs en compétition avec tous les autres travailleurs du monde.
Which means that American workers are in competition with the workers in China who are hideously exploited in horrible conditions and very low wages.
C'est-à-dire les travailleurs américains qui se trouvent en course face aux travailleurs chinois qui eux sont exploités dans des conditions de travail abominables.
Ce que vous dites là, vous pouvez le dire pour la France, vous pouvez le dire pour l'Italie, vous pouvez le dire pour une grande partie de l'Occident.
But there's another aspect to that. Professionals and wealthy people are protected by the trade agreement.
Mais il y a un autre aspect à ça, c'est que les professionnels et les riches sont protégés par ces mêmes accords de libre-échange.
The trade agreements allow free movement of capital, but not free movement of labor.
Ces accords permettent la libre circulation des capitaux, mais pas la libre circulation des personnes.
So for example, lawyers, professors, doctors, economists, journalists from the poorer countries can't come to the United States, where they would work at a fraction of the wages.
Et par exemple, les managers, les leaders, les journalistes, les chercheurs, les intellectuels et les avocats des pays pauvres ne peuvent pas venir travailler dans les pays riches où ils pourraient prendre les travail des mêmes gens pour moins cher.
Many other, no time to go into it, but many other features of the trade agreements are basically for the rights of investors. Not for the rights of people.
Et la plupart des mesures de ces accords de libre-échange sont pour l'intérêt des multinationales, l'intérêt des groupes, mais pas ceux des individus.
There has been, you know, people talk about the transfer of power from the United States to China, but it's pretty misleading. There has been a major transfer of power in the last generation from working people to the very affluent.
Et beaucoup de gens parlent du transfert du pouvoir des États-Unis vers la Chine, mais c'est pas ça qui est à l'œuvre en ce moment. Le principal transfert de pouvoir, ça a été de la part des travailleurs, des gens transférés aux mains des plus puissants.
Globally, the share of wealth in the hands of working people has declined substantially, almost everywhere, including China, incidentally.
Partout dans le monde, si on regarde les statistiques, la part de richesse détenue par ceux qui travaillent a chuté, y compris en Chine.
And that's one part of processes that lead to a lot of resentment, fear and anger.
Et c'est une part de, justement de tout ce processus qui amène beaucoup de ressentiment, de colère et de peur.
Well, if that's diverted against even poorer people, like immigrants, and not against the ones who are implementing and carrying out these programs, well, of course, that's to the benefit of the powerful. And the Tea Party movement is exploiting that phenomenon.
Et si cette colère, cette peur est détournée vers ceux qui sont encore en dessous, ceux qui sont encore plus faibles, au lieu de se diriger vers ceux qui en profitent, voilà un des leviers qui permet, par exemple, au Tea Party de bénéficier d'un soutien.
And that's, to get back to your original question, the Wisconsin and other uprisings are really the first manifestation of a popular protest against the real sources of power and domination and repression, and that could be significant.
Et pour revenir à votre question du départ au sujet de cette mobilisation au Wisconsin et du soutien qu'elle connaît un peu partout, c'est peut-être le début de ce mouvement qui pointerait de doigt vers ceux qui profitent vraiment du pouvoir et ceux qui vraiment ont les cartes en main.
It's kind of revealing that right in the middle of these popular protests in the American industrial heartland.
Et c'est intéressant de voir qu'au même moment où il y avait cette mobilisation dans le cœur industriel des États-Unis,
the big banks and investment firms have very quietly given themselves huge bonuses. It's quiet, but they're doing it.
Au même moment, les plus riches d'entre les riches, qui sont justement les grands investisseurs, s'octroyaient des bonus extraordinaires, mais en silence, discrètement.
And they're the ones who created the crisis. And they're the ones who are richer than ever because the taxpayer bailed them out.
Et c'est eux-mêmes qui ont été sauvés par les subventions publiques au moment de la crise financière.
It would be hard to conjure up a more vulgar display of class warfare, you know.
Ça serait vraiment dur de trouver un exemple aussi grossier de guerre des classes.
Hey, Governor Walker, get to know our state. We treat each other with respect. We bargain and negotiate. Hey, Governor Walker, you better go back to school. Study our democracy and brush up on the golden rule. Hey, Governor Walker, you were elected king. Your budget repair bill wears no clothes. It's a naked anti-union thing. Governor Walker, we all own a share in the future of this state, and that's no golden crown you wear. Hey, Governor Walker, get ready for a brawl. Badger workers won't back down. We've got the power to recall. We won't forget, we will recall. We've got the power to recall. We won't forget, we will recall.
Voilà une chanson qui s'adresse à ce gouverneur Walker, donc lors des manifs dans le Wisconsin aux États-Unis. Qui eût cru que un beau jour l'Égypte ou la Tunisie allait être la référence, le modèle pour des Américains? Ça fait des années que c'est l'inverse, bien évidemment. L'américanisation, le modèle, c'est les États-Unis. Eh ben, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un renversement de perspective provisoire, peut-être, illusoire, peut-être, mais bien agréable à constater. On est avec Noam Chomsky en conversation, entretien à Bruxelles. Vous voyagez beaucoup ces temps-ci, hein ? Vous êtes venu nous voir en France, vous êtes allé en Turquie, en Chine, là vous revenez, vous étiez à Londres, aux Pays-Bas, et vous êtes à Bruxelles maintenant, donc vous voyagez beaucoup. Qu'est-ce que vous apprenez au cours de vos voyages ? Et qu'est-ce que vous apprenez sur chacun de ces pays à travers les questions que les gens vous posent et que les journalistes vous posent ?
Well, the questions, of course, reflect the prevailing ideology and intellectual circumstances and so on, and they vary somewhat.
Les questions montrent souvent l'idéologie dominante et les préoccupations intellectuelles, mais elles varient aussi d'une certaine mesure.
So I was saying China, I didn't expect Chinese journalists to ask serious political questions. It's just too dangerous.
Par exemple, en Chine, je ne m'attendais pas à ce que des journalistes chinois me posent des questions politiquement sensibles, parce que c'était trop dangereux.
But in Hong Kong and Taiwan, where everything is transmitted to China right away, they did.
Mais par contre, à Hong Kong et à Taiwan, où tout est transmis en Chine aussitôt, là, ils nous ont posé des questions.
When I gave a talk at Peking University and condemned the lack of any democracy in China, a big student applause.
Et quand j'ai parlé à l'université de Pékin, en critiquant, en condamnant le manque de liberté en Chine, là, les étudiants se sont levés, ont applaudi.
When I go to Turkey, this is not the first time, I was there recently, I'm struck by the fact always that Turkey is the only country I know of where the intellectual classes are actually honest.
Et quand je vais en Turquie, c'était pas la première fois que j'y vais, mais je suis toujours surpris de voir, c'est vraiment un des rares pays où je vois une classe intellectuelle la plus honnête que je connaisse.
Comme en France, par exemple.
No, I mean, they're not posturing before television about how they support the victims of somebody else. What they're doing is constantly engaged in protesting the crimes of their own state, and furthermore are engaged in constant civil disobedience against these crimes, facing sometimes suffering severe penalties.
Par exemple, on voit rarement ces mêmes intellectuels prendre la pose devant les caméras de télévision pour prendre la défense d'un peuple à l'étranger. Non, ce qu'ils font eux, c'est qu'ils critiquent constamment les violations des droits dans leur pays et surtout, au risque de leur liberté, s'engagent dans des processus de désobéissance civile au nom de ces droits.
So not posturing before television about how we are all Bosnians, but standing up before television saying we are all Armenians, we are all Kurds.
Par exemple, c'est pas d'aller prendre la pause devant la télé pour dire nous sommes tous des Bosniaques, mais au contraire d'aller devant les médias turcs et dire nous sommes tous des Arméniens, nous sommes tous des Kurdes.
Quand vous dites prendre la pause devant des caméras en disant nous sommes tous des Bosniaques, j'ai l'impression que vous visez un certain intellectuel français.
Yeah, that's right. If you can identify.
But oui,
it's not just France.
Vous pouvez l'identifier, mais ce n'est pas qu'en France.
And when you get to Turkey, you actually have people taking an honest stance. And that's the leading writers, academics, journalists, publishers, artists, you know. That's impressive. And I don't know of any other country like that. In fact, when I come to Europe, I'm always struck by the fact that people talk about how we can't allow Turkey into the European Union because they're not civilized enough. I think Europeans could learn a lot from Turkey.
Mais par exemple, quand je vois la Turquie, ça me surprend toujours de voir ces pays avec des chercheurs, des écrivains, des intellectuels, des éditeurs qui prennent position clairement pour des choses qui les concernent. Et quand je vois par exemple en France ou en Europe les mobilisations et tous les débats qu'il y a pour exclure la Turquie d'une entrée dans l'Europe au nom qu'il ne serait pas civilisé, je me dis qu'au contraire, il y aurait beaucoup à apprendre de la société turque. Ici en Europe.
One last comment about what you can learn on travels. One of the places I went to in the last few months was southern Colombia, visiting remote endangered villages. I've been there before. These are people who are living under extreme danger.
Et pour revenir à la question que vous posiez sur ce qu'on apprend au cours de ces voyages, il y a un voyage que j'ai fait récemment, il y a quelques temps de ça, dans le sud de la Colombie, où j'avais déjà été auparavant, et où il y a des populations, des communautés de villageois qui se mobilisent dans une zone très très dangereuse.
As you approach the village, you pass a small cemetery where several dozen people were killed by military and paramilitary forces. They're working very hard to try to protect their own resources, the poor villages, but protect their resources from mining companies that want to come in from the government efforts to privatize water, from other actions which would destroy their lives.
Pour aller jusqu'à leur village, on passe devant un dispensaire où des dizaines de personnes ont été tuées par une opération militaire ou par les paramilitaires. Et ces gens-là, qui vivent vraiment de peu de choses, se mobilisent et essayent de lutter contre l'appétit des compagnies minières sur les ressources ou sur la volonté de l'État central de privatiser l'eau.
On connaît un prêtre qui vous connaît en Colombie.
Javier.
Javier Giraldo.
A very brave man.
C'est un homme
He's
très
under
courageux.
Constant death threats.
Il est tout le temps sous la menace de mort.
Refuses to accept protection. Actually, he was with me in this trip to the villages this time. I've met him before. Extremely courageous man.
C'est un homme très courageux. On était ensemble justement dans ce voyage.
To expose government atrocities, terror, There are villages, a group of villages in Colombia who have formed a kind of a zone of peace. They want to be free from attacks by the army, the paramilitaries, and the guerrillas, who are also terrorists. And he's working with them. In fact, right now he's finishing a book exposing crimes against the peace villages by mostly the government and paramilitaries. But he's there all the time. He refuses protection. He's just out there in the villages.
C'est le père Javier Giraldo, dans la tête est mise à prix, qui refuse d'avoir le moindre service de sécurité et de garde du corps, et qui se bat et qui se mobilise à faire une fédération de villages qui se déclare zone sans guérilla, c'est-à-dire à l'abri des opérations militaires, mais aussi à l'abri des opérations des milices paramilitaires, mais aussi à l'abri des opérations des FARC et autres guérillas. Et il est avec eux, il est auprès d'eux, et j'étais avec justement dans ce voyage avec lui, il est en train de préparer un livre sur toutes les violations et les exactions dont sont victimes les populations civiles.
On l'a rencontré, il parle français, et on a fait une interview avec lui, et à un moment, je lui dis, c'est curieux, est-ce que vous connaissez un intellectuel américain qui s'appelle Noam Chomsky? Il vous connaît très bien.
I've been in touch with him for a long time, and years ago wrote the introduction to his book, and so on.
You know. Oui, je suis en contact avec lui depuis des années, il y a quelques années de ça, justement, j'avais écrit l'introduction à son premier livre.
There are people like that all over the world, very impressive people. I mean, they're not the ones who win the prizes or receive international renown, but they're the important people.
Il y a beaucoup de gens comme lui à travers tout le monde. Il y a des gens comme lui qui se battent et qui se mobilisent. Et c'est souvent pas d'eux qu'on entend parler. Et c'est souvent pas eux qui ont les prix et les récompenses internationales. Mais pourtant, ce sont ces gens-là qui font la différence. Ce sont ces gens-là qui comptent.
And I'm sure he must have said in the interview that the really impressive people are the campesinos and the indigenous people who are struggling constantly.
Et je suis sûr qu'il vous a dit au cours de votre entretien que les gens les plus importants et les plus courageux, c'était ces paysans, c'était ces populations indigènes qui luttaient au quotidien.
Merci Noam, merci beaucoup.
Thank you.
Y deberá que quiten esos falsos, suenan los cañonazos. Hey,
llegaron los tres coronas, los individuos que rompen esta tarima lo van a hacer. Para los que no lo querían creer, para los que no los conocen muy bien, lo explico, te digo, mi amigo, lo van a, lo van a, lo van a, lo van a hacer. Conocido como Pillen, o el indio guajiro, guerreando por este rap o por este sonido. Pa' mi latinoamericanos, digan yeah, yeah. Pa' los que creen en tres coronas, digan yeah, yeah. Es algo diferente, pa' la mente. Es algo que se siente, dedicado a mi gente. Con letra inteligente, yeah. Algo inconsciente, algo que sí se siente. Algo que sí se siente.
Yeah, 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 yeah.
Pour finir, une question qui a été posée à Noam Chomsky lors du débat à l'Université libre de Bruxelles, non pas par nous, mais par le public. Et c'est une question qui nous intéresse et qui nous interpelle, puisqu'elle concerne le 11 septembre 2001. Depuis des années, il existe aux États-Unis, en France et à travers le monde, un mouvement qu'on appelle soit Truth Movement, soit Reopen, qui remettent en cause l'explication et le déroulement couramment admis des attentats du 11 septembre, et qui se repose sur des faits, sur des impressions, sur des éléments divers et variés, et qui sont très organisés, et qui opère par un système véritablement de lobbying pour interpeller les médias, les politiques, pour ouvrir les dossiers, pour dire non, c'est pas comme ça que ça s'est passé, c'est un coup monté par l'administration américaine, etc. Et ce sont des gens très organisés qui, très souvent, les journalistes le savent, font pression, envoient des mails, et même jusqu'au... On peut vraiment parler de harcèlement. Évidemment, Chomsky, qui a écrit sur le 11 septembre, fait partie de ceux qui sont en première ligne dans ce questionnement. La question a donc été posée ce soir-là. Chomsky est très sceptique devant ses partisans, mais il leur répond ce soir-là, donc en public, à l'Université libre de Bruxelles.
So take, say, the National Commission on 9/11. Am I satisfied by the outcome? No, but that's because it was a government commission.
Si vous me demandez si je suis satisfait des conclusions de la commission d'enquête nationale sur le 11 septembre, je vous répondrai non. Mais tout simplement parce que ce sont les conclusions d'une commission gouvernementale.
Take a government commission on any topic. Pick it. You know, it's never going to tell the truth.
Prenez n'importe quelle commission gouvernementale sur quelque sujet que ce soit, elle ne dira tout simplement jamais la vérité.
The 9/11 movement, its big demand is there should be an independent investigation.
Une des principales revendications des militants du 11 septembre, c'est qu'on ouvre une enquête indépendante.
Like by whom, for example? By the government? No, you get another whitewash. By whom? By Martians? Who's going to carry out an investigation?
Mais par qui une enquête indépendante pourrait-elle menée? Par le gouvernement? Non, bien sûr, parce qu'il va encore blanchir, bien entendu. Alors par qui d'autre? Par les Martiens? Qui peut faire une vraie enquête indépendante?
Coming to the facts, the 9/11 movement, what they claim to have found is lots of complications, unexplained coincidences, you know, strange things that happen. Why do you find nanothermite? This and that. And all that's, you know, without looking at the details, undoubtedly correct. That's just to say it's a historical event.
Mais pour ce qui est des faits qui sont avancés par les militants pour une réouverture d'une enquête sur le 11 septembre, ce qu'ils disent avoir trouvé sont principalement des faits étranges, des coïncidences troublantes, des choses incompréhensibles. Et sans remettre en doute tous les détails, dont certains sont probablement corrects, pourquoi ne reconnaît-on pas tout simplement que c'est un fait historique?
Take any historical event you like. It's going to be so complicated and messy that there's going to be all kinds of unexplained phenomena, strange coincidences, things overlooked and so on.
Prenez n'importe quel événement historique, il sera tellement compliqué et embrouillé que vous y trouverez nécessairement toutes sortes de phénomènes inexpliqués, d'étranges coïncidences ou de détails laissés dans l'ombre.
That's why historians are debating incidents far back when they've got all the whole documentary record available. And it's still hard to figure out what happened.
C'est pourquoi, justement, il y a des débats continus qui se produisent entre historiens sur des faits très anciens, parce que même en recueillant toutes les informations possibles, il est toujours quasi impossible d'arriver sur une vérité unique.
Let's assume for a moment that the 9/11 sort of truth movement claims are correct. So suppose Building 7 was blown up by an internal explosion. Okay. And suppose that whatever you like, take any facts you like, and let's say they're correct.
Alors imaginons par exemple un moment que le mouvement pour la vérité du 11 septembre et les faits qu'ils avancent soient avérés. Imaginons que le building numéro 7 ait effectivement explosé de l'intérieur. Prenez n'importe lequel des faits avancés dans ces enquêtes, imaginons qu'ils soient vrais.
Il y a quelques choses qui sont incontroversables. Une chose qui est incontroversable est que le gouvernement a blâmé principalement sur les Saoudiens. C'est un fait. Un second fait qui est incontroversable is that they were itching to invade Iraq, not Saudi Arabia. Saudi Arabia is their main ally.
Parce qu'il y a certains faits qui sont avérés et qui ne sont sujets à aucune controverse. Ce premier fait, c'est que le gouvernement américain a en premier pointé du doigt la responsabilité de l'Arabie Saoudite dans ces attentats. C'est un fait. Et le deuxième fait, c'est qu'ils avaient dans leur projet d'envahir l'Irak et pas l'Arabie Saoudite, qui était leur principal allié dans la région.
So there's only two possibilities. Either they're utter lunatics, in which case there's no point discussing it, or they didn't carry it out.
Alors il n'y a donc que deux possibilités. Ou bien les Américains sont à côté de leur pompe, ce qui peut être un fait, ou bien ils n'ont rien fait.
If they'd carried it out, they would have blamed the Iraqis, obviously. If they'd blamed the Iraqis, they would have had an open door to the invasion of Iraq. There'd be overwhelming popular support in the United States. There'd be a NATO support, UN resolution, everything would be straight.
Si les États-Unis avaient rejeté la responsabilité du 11 septembre sur l'Irak à ce moment-là, ils auraient alors sans aucun doute recueilli un très large soutien populaire en Amérique, avec le soutien de l'OTAN et une résolution du Conseil de sécurité. Tout aurait parfaitement fonctionné.
They wouldn't have had to concoct all kind of crazy pretexts, discrediting themselves and undermining their operation and finally having the thing that they wanted to do, the Iraq invasion, collapse.
Ils n'auraient pas alors à concocter tout un tas de prétextes plus ou moins fous qui les ont d'ailleurs discrédités et qui ont sapé aussi leurs opérations, puisqu'ils ont finalement envahi l'Irak pour finalement avoir leur objectif final qui s'effondre.
So there's two possibilities. Either they're lunatics, in which case we can stop discussing it, or they didn't carry it out. If anybody can think of a third possibility, I'd like to hear it.
Il y a donc deux possibilités. Ou bien les États-Unis sont des pieds nickelés, et dans ce cas, la discussion peut très bien s'arrêter là, ou bien ils n'ont rien fait. Si quelqu'un voit une troisième option possible, je serais curieux de l'entendre.
Voilà. Merci à tous. Merci à Noam Chomsky. Bravo au traducteur que vous avez reconnu, Guy Vanctil. Merci aussi à Normand Baillargeon, Jean Bricmont et Gilles Martin des éditions Aden, qui étaient l'un des organisateurs de cette rencontre. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission, là-bas si j'y suis. Si vous voulez réécouter nos rencontres avec le père Javier Giraldo en Colombie, ça date de décembre 2007. Vous pouvez la retrouver sur là-bas.org, là-bas.org. À décembre 2007, vous retrouvez cette suite de reportages en Colombie. À la technique aujourd'hui, Thibaut Deschamps et Michel Bézikian, Koye Nguyen et Franck Allerer ont réalisé cette émission. Assisté d'Agnès Lebot et Marina Touillet. Attends vos messages sur le répondeur de la base où j'y suis, au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
Arrêter, c'était pas si simple, surtout après tant d'années.
Quand on est dedans, on se rend pas compte. Au final, l'addition est lourde.
Mais à deux, c'est quand même plus facile d'arrêter.
Vous aussi, arrêtez de banquer. Chez Fortunéo.fr, la banque en ligne moins chère, les cartes bancaires sont gratuites et pas seulement la première année.
En ce moment, 60 euros offerts pour toute première ouverture d'un compte bancaire. Alors pour arrêter de banquer, tapez fortuneo.fr.
Fortuneo.
Offre sous conditions disponible sur fortuneo.fr.
Votre mission, survoler un super volcan. Votre aire de décollage, Vulcania. Sous vos pieds, les paysages grandioses de l'Indonésie primitive. Face à vous, une terrible menace. Avec Mission Toba, vivez à Vulcania l'incroyable éruption d'un super volcan. Vulcania en Auvergne, l'aventure de la Terre.
Jusqu'au 9 mai, un séjour enfant offert pour deux séjours adultes achetés. Conditions sur vulcania.com.
Ceci est un message de Bleu Ciel d'EDF.
Prends cet artisan. Oh non, appelle plutôt celui-là.
J'avais besoin de quelqu'un pour mes travaux de chauffage et d'isolation. Mais qui ? J'étais perdue. Et puis un conseiller EDF Bleu Ciel a pu me mettre en relation avec des professionnels qualifiés, les partenaires Bleu Ciel d'EDF. Mes travaux de chauffage et d'isolation ont été réalisés en toute sérénité. C'est important, la sérénité.
Appelez le 3929, 5 centimes TTC la minute, hors surcoût éventuel selon opérateur, ou rendez-vous sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Préfonds retraite.
Allô, le 3025 ? Bon, écoutez, moi je travaille bien dans la fonction publique, mais vous savez quel âge j'ai ? 30 ans. Alors ma retraite, j'y pense même pas. Je devrais ?
Préfonds vous répond au 3025, appel gratuit, ou sur préfonds-retraite.fr.
Préfonds retraite.
Complémentaire et nécessaire.
16h sur Inter, on se retrouve demain, 15h pour la basse et j'y suis. Les infos, Corinne Audouin. Salut.
La réunion du groupe de contact sur la Libye a commencé à Londres. Une quarantaine de pays et d'organisations y participent. Au menu des discussions, l'après-Kadhafi, les raids alliés se poursuivront jusqu'à ce que le leader libyen se conforme aux demandes de l'ONU et arrête les attaques contre les civils, a averti la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton. Pour accélérer les choses, l'administration américaine n'exclut pas d'armer les rebelles libyens. Et la Libye aura bientôt un nouvel ambassadeur de France basé à Benghazi, le fief de la rébellion. Antoine Sivan doit arriver prochainement sur place. Sur le terrain, l'armée fidèle au colonel Kadhafi regagne du terrain. Ses chars attaquent notamment la ville de Misrata dans l'ouest du pays. Les rebelles craignent un massacre. En Syrie, le gouvernement dirigé par le premier ministre Naji Autry a démissionné. Un nouveau cabinet sera formé d'ici la fin de la semaine. Il devra mener à bien plusieurs réformes promises par le régime comme l'abrogation de l'état d'urgence, la libéralisation de la presse et l'instauration d'un pluralisme politique. Depuis ce matin, des centaines de milliers de personnes défilent à Damas et dans tout le pays pour montrer leur soutien au régime. Alors qu'au Japon, le gouvernement est en alerte maximale pour maîtriser la situation à Fukushima. Une trace infime du panache radioactif émis par la centrale japonaise a été relevée en Ardèche, mais pas de quoi affoler les gens, selon la CRIRAD, un organisme indépendant qui effectue ses propres mesures. Un échantillon d'eau de pluie a été analysé et une très petite quantité diode 131 a été détecté, qui viendrait de la centrale japonaise. Ce niveau de radioactivité est sans danger pour l'environnement et la santé. Il défile derrière une banderole où est écrit « La justice est en danger, unissons-nous ». À l'appel de 26 organisations, les professionnels de la justice, magistrats, greffiers, avocats, manifestent en ce moment à Paris. Un mois et demi après la fronde inédite déclenchée par leur mise en cause dans l'affaire du meurtre de Laetitia à Pornic, ils réclament avant tout des moyens. Franck Cognard, vous êtes avec les manifestants, alors quelle est l'ambiance ?
C'est un cortège tranquille et souriant qui remonte en ce moment le boulevard du Montparnasse. Cortège tranquille avec en tête une intersyndicale, puis après viennent des syndicats de personnel d'insertion, de la pénitentiaire, de l'application des peines, des greffiers. Et ce sont les syndicats de magistrats et d'avocats qui ferment cette manif. Alors le cortège est souriant aussi malgré les revendications qui sont lourdes et qui sont urgentes. Chaque personne rencontrée donne son détail de la pénurie. Ici, c'est trois greffiers qui manquent, alors les jugements prennent du retard. Là, ce sont des éducateurs jeunesse qui manquent. Résultat, des enfants qui auraient dû être placés restent dans la famille qui les maltraite. Chacun des manifestants, finalement, apporte un détail, une précision. Et au fil du cortège, c'est un état des lieux peu reluisant qui est dressé, peu reluisant cet état des lieux de la justice. Pourtant, c'est bien la justice qu'on rend. La justice se désole un participant. Boulevard du Montparnasse, Franck Cognard, France Inter.
Il n'y a pas d'implosion ni d'explosion à l'UMP, c'est ce que pense Christian Jacob, le président du groupe UMP à l'Assemblée. Malgré les échanges musclés entre François Fillon et Jean-François Copé autour du débat sur la laïcité, le parti au pouvoir est en plein doute après sa défaite au cantonal. Le Premier ministre a décrété que l'incident était clos après une explication avec le patron de l'UMP qui lui reprochait de ne pas jouer assez collectif. Un camp de Rome a été évacué ce matin sur les communes de Bobigny et de Noisy-le-Sec en région parisienne. Ils étaient installés dans des caravanes sous un pont le long du canal de l'Ourcq. Le préfet justifie cette expulsion par les risques encourus par les occupants. La maire communiste de Bobigny, Catherine Page, fait part de son indignation. L'expulsion a été organisée sans prévenir la mairie qui avait autorisé les familles à s'installer sur ce terrain le temps de trouver une solution plus pérenne. Et puis, conséquence de la prévision d'inflation en France, revue à la hausse cette année et désormais estimée à 1,8%, le minimum vieillesse sera revalorisé de 4,7% à partir du 1er avril.
Tous les jours.
Dis donc, mais toi, tu fais jamais rien.
À partir de 11h.
Ça, c'est quand je suis en forme.
Le fou du roi.
Stéphane Bern.
Vous avez un humour qui est dévastateur, mais avec le risque de pas forcément être compris.
Pour assister au prochain Fou du Roi, en direct du studio 106, avec Guy Bedos et Bruno Chiche, rendez-vous demain mercredi dès 10h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
Ils en aiment bien sorti, hein.
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
Le Fou du Roi.
Eh ben oui.
Tous les jours sur France Inter. À partir de 11h,
France Inter présente Sweeney Todd au Théâtre du Châtelet du 22 avril au 21 mai. Après A Little Night Music, le Châtelet présente l'autre grande comédie musicale de Stephen Sondheim, Sweeney Todd ou le diabolique barbier de Fleet Street. Un vrai thriller musical aussi hilarant qu'inquiétant. Retrouvez Sweeney Todd dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
La différence.
Et à 16h05 sur France Inter, on retrouve Frédéric Lodéon. Bonjour.
Bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez le mieux possible. Tout à l'heure, dans 25 minutes à peu près, je recevrai le très brillant jeune violoniste Nemanja Radulović. Pour commencer, une ouverture de Mozart, c'est pas une des plus connues, mais elle a beaucoup de qualités. Elle a été écrite conjointement avec la flûte enchantée, c'est les deux derniers opéras de Mozart, Clémence de Titus et la flûte. Et on sait que Mozart a composé cette œuvre-là en voyage vers Prague avec son élève Süssmayr. Il prenait des voitures de poste, ils écrivaient sur leurs genoux, car Mozart composait, mais son élève l'a aidé pour certains passages aussi. Bref, œuvre ultime, mais évidemment absolument pas faiblarde. La preuve, ce début qui est vraiment grandiose. Il faut dire que c'était aussi une occasion officielle où l'empereur était là.